9h-10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon dimanche. Allez-vous, vous aussi, vous mettre à collectionner des NFT? Le plus cher s'est vendu pour 69 millions de dollars, mais il y en a pour toutes les bourses. Il y en a même des gratuits chez McDonald's. Julie Jacob est ma première invitée ce matin. Elle va tout nous dire sur le nouveau terrain de jeu des collectionneurs et des spéculateurs. Et puis l'astronaute Michel Tognini sera en direct avec nous. Il a été le troisième Français à partir dans l'espace. Et c'est lui qui a recruté Thomas Pesquet il y a une douzaine d'années. Enfin, je recevrai Alain Sennepin. C'est l'auteur d'un livre au titre sensationnel, L'incroyable victoire des cachalots dans la guerre contre les baleiniers au 19e siècle, d'autant plus sensationnel qu'il est vrai, vous allez voir pourquoi. Le 11 mars dernier, une œuvre d'un artiste nommé Beeple, totalement inconnu quelques mois plus tôt, s'est vendue un peu plus de 69 millions de dollars chez Christie's. 69 millions de dollars, c'est le troisième prix le plus important pour un artiste vivant derrière Jeff Koons et David Hockney. Sauf que l'œuvre de Beeple n'est pas une sculpture ni une peinture, mais une suite de lignes de code informatique. Et quelques jours plus tard, le tout premier tweet de l'histoire, celui de Jack Dorsey, le PDG et fondateur de Twitter, a été vendu 2,9 millions de dollars. Un simple tweet. Bienvenue dans le nouveau monde des NFT, les non-fungible tokens, les jetons non-fongibles en français. Alors pour comprendre cette nouvelle passion des collectionneurs et des spéculateurs, j'ai invité Julie Jacob. Bonjour Julie.
Bonjour Frédéric Taddeï.
Vous avez été la plus jeune avocate de France. Aujourd'hui, vous êtes spécialisée dans la propriété intellectuelle, le droit informatique, le e-commerce. Vous allez donc pouvoir nous expliquer les NFT. D'abord, pourquoi ces prix hallucinants? 69 millions de dollars pour un montage de photos numériques, c'est le prix d'un duplex de 700 mètres carrés sur Park Avenue.
Oui, c'est vrai que c'est assez impressionnant, toute cette spéculation autour des NFT. Alors, l'artiste américain Beeple a vendu via la maison de vente Sotheby's cette œuvre pour presque 70 millions de dollars. Il a battu son précédent record de 6,6 millions. Alors pourquoi? Parce qu'on est dans le monde des crypto-monnaies, parce que c'est le monde du virtuel et en même temps qui rejoint le réel. Et cet artiste, c'était pas un artiste inconnu, hein. Il avait déjà collaboré avec Justin Bieber, avec Eminem.
Mais qu'est-ce qu'on achète exactement? On l'a chez soi, on peut la regarder cette œuvre?
Alors contrairement à ce qu'on peut croire, quand on achète un NFT qui prend la forme d'un tableau, on n'achète pas l'œuvre en elle-même, on achète une reproduction. C'est comme si on achète la reproduction d'un tableau de Picasso. Sauf que avec le NFT, on achète une signature, une unicité, et donc on a avec la blockchain un certificat d'authenticité qui lui donne comme une sorte d'autographe. Donc on achète une production unique avec une signature.
Alors, la technologie, c'est la blockchain, hein, comme vous venez de le dire. Ça permet de rendre cher, au fond, quelque chose qui, normalement, est gratuit.
Oui, c'est un peu ça. Sauf qu'en vérité, pourquoi c'est cher? Parce que c'est rare. Et en vérité, ce qu'on achète, c'est une signature, c'est une représentation unique, un peu comme si on achetait un autographe. Et donc, du coup, c'est l'unicité qui donne la valeur au bien, que ce soit une œuvre, une musique, une image. Il y a même le sport, tout un tas de domaines qui se déclinent dans la blockchain aujourd'hui.
On va voir ça, mais on a bien compris, en fait, tout bien immatériel peut devenir un NFT, un article de journal, par exemple. Mais en quoi est-ce qu'on est sûr que ce que l'on possède est unique?
Ça passe par la technologie de la blockchain, qui est une technologie qui permet de créer une base de données qui est ce qu'on appelle décentralisée. Et cette blockchain s'est assimilée un peu à une grande chaîne. Chaque transaction, par exemple d'un NFT, est vérifiée par les utilisateurs et les transactions sont ensuite regroupées en blocs. Et c'est pour ça qu'on appelle ça la blockchain. Et en fait, ça fait un eurodatage. Et ça certifie l'authenticité. C'est vraiment important.
C'est la même technologie que l'on utilise pour les bitcoins, par exemple.
Exactement. C'est la même technologie qu'on utilise pour les bitcoins, pour toutes les crypto-monnaies comme l'Ethereum.
C'est d'ailleurs dans un jeu vidéo que sont nés les NFT, je crois. Hein. Ça a commencé avec ce jeu où l'on collectionnait les chatons virtuels, les crypto-kitties.
Oui, les crypto-kitties, exactement. Et c'est vrai que ces mondes virtuels sont à l'origine un petit peu de ces NFT. Et aujourd'hui, d'ailleurs, dans ces nouveaux mondes virtuels, enfin pas nouveaux, mais qui sont de plus en plus pointus, il y a un monde réel qui s'organise, notamment des espaces d'exposition. Là, j'ai vu qu'il y a une galerie d'art, la galerie Koenig, qui a conçu un espace d'exposition pour ses œuvres dans une galerie, une marketplace. Dans ces mondes virtuels. Et il y a toute une économie qui existe en crypto-monnaie, crypto-monnaie qui peut se transformer en euros, en dollars. Et donc finalement, cette monnaie et ce monde virtuel ont un impact sur le monde réel.
Et ça peut être des sommes colossales. Hein. Je parlais de 2,9 millions de dollars pour un tweet, le premier tweet publié par le PDG de Twitter, donc il y a 15 ans. Et ce tweet, au fond, quelqu'un l'a acheté de 2,9 millions de dollars, il en a le certificat de propriété, mais rien n'empêche Jack Dorsey de supprimer son tweet.
Eh bien, aujourd'hui, ce tweet qui a été vendu presque 3 millions de dollars, il appartient à une personne qui l'a acheté avec un NFT. Donc, normalement, il a un certificat qui est ancré dans la blockchain, c'est-à-dire qu'il a un crypto-code qui montre qu'il y a une propriété qui est détenue par quelqu'un. C'est la raison pour laquelle il est quand même important, quand on détient un NFT, d'avoir aussi un transfert sur un support pour être sûr d'avoir la propriété, de le télécharger, de le copier. C'est un peu comme une photo d'un JPEG. Et donc, on peut le télécharger, quel que soit son format. Mais si on n'a pas la blockchain, c'est-à-dire la signature, eh bien, il n'y aura pas de... Il n'y aura pas de valeur puisqu'il n'y aura pas de preuve de l'antériorité de la propriété.
On fait une pause et vous allez nous expliquer la suite, comment, au fond, dans tous les domaines, on a désormais des NFT et qui s'échangent à des sommes astronomiques.
Europe 1, c'est arrivé demain. Frédéric Taddeï.
Nous sommes toujours avec l'avocate Julie Jacob. Je le disais, il y a des collectionneurs de NFT dans tous les domaines aujourd'hui. Tout ce qui est numérique peut être collectionné et voir son prix augmenter ou baisser. Beaucoup, il faut bien se le dire, ne vaudront plus rien dans 3 ou 4 ans. La chanteuse Grimes, par exemple, a vendu aux enchères ses clips vidéo pour 5 millions d'euros quand même. Mais ils sont toujours libres et accessibles sur Internet, bien entendu.
Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'artistes qui développent des NFT, que ce soit des extraits de clips, des morceaux inédits, des offs de tournage en studio. Mais en principe, si on crée un NFT, on crée une œuvre unique qui est signée et qui a donc une valeur du fait de son authenticité. Donc, en principe, quand on crée un NFT, c'est une œuvre à part qui est signée et qui a une valeur complètement unique.
Alors, imaginons que la valeur des clips de Grimes monte, que demain, ils soient revendus pour 10 millions d'euros. Est-ce que Grimes, en tant qu'artiste, peut toucher un droit de suite, une commission à chaque fois que c'est revendu ?
Ah oui, c'est une question très intéressante parce qu'en fait, tout l'intérêt des NFT, c'est la notion... Je pense qu'il faut en parler de smart contract. Dans un NFT, dans un non-fungible token, est inscrit une sorte de tatouage numérique dans lequel il y a ce qu'on appelle le certificat d'authenticité de l'œuvre, que ce soit un tableau comme Beeple, une carte Panini qui est la photo d'un joueur de foot ou un extrait de clip. Et dans ce certificat, on peut y inscrire toute la chaîne des auteurs, des ayants droit, et donc y inscrire dedans la clé de répartition, c'est-à-dire qu'une fois que l'œuvre est vendue puis revendue, et si la clé de répartition est bien inscrite dans le cryptogramme, dans le smart contract, eh bien à chaque revente, à chaque transaction, les auteurs qui ont collaboré à la création pourront percevoir des droits. Donc c'est en ça qu'il y a un vrai intérêt, c'est de suivi, comme vous dites, le droit de suite, et de répartition, de façon équitable à l'ensemble des auteurs qui ont collaboré à la création de l'œuvre.
Mais alors, pas besoin de vendre ses clips sous forme de NFT ou même son dernier album, comme l'a fait le groupe de rock Kings of Leon. On peut vendre un simple riff de guitare, par exemple.
Oui, absolument. On peut vendre un riff de guitare, on peut vendre n'importe quelle photo, n'importe quelle vidéo, qu'importe quel JPEG. À partir du moment où il est empreint d'une signature, et donc inscrit dans la blockchain, que ce soit en mode Bitcoin ou Ethereum ou une autre blockchain. Mais tout l'intérêt, c'est de lui donner une certaine unicité pour que ça devienne un collector. En fait, on achète une production unique avec une signature.
Il faut trouver un acheteur, évidemment, hein, ce qui peut paraître compliqué. Néanmoins, vous parliez de vignettes Panini. On se souvient des vignettes Panini qui représentaient des joueurs de football. Ça existait sous des formes de petites vignettes en papier. Hein, les petits garçons collectionnaient ça. Et maintenant, elles existent sous forme de NFT. Et par exemple, une photo d'Mbappé, alors ça peut se vendre combien ?
Bah, ça peut se vendre entre 150 et 200 000 $. Là, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une plateforme de NFT dans le domaine du sport et qui vend, comme vous dites, Frédéric, des cartes qui représentent des joueurs qui sont d'ailleurs dans presque 130 équipes de foot professionnelles, parmi lesquelles il y a le PSG, il y a l'OM, il y a le Bayern. Et l'image d'un joueur peut être vendue, en effet, à 150, 200 000 euros. Ça a été le cas récemment pour Ronaldo et Mbappé, sur des ventes qui ont été faites en Ethereum. Alors, ça peut paraître fou parce que c'est une photo en format JPEG, mais on achète une photo avec un autographe. Vous voyez, il faut qu'on comprenne qu'en vérité, c'est pas qu'une photo Panini, c'est une photo avec l'autographe original de Mbappé. C'est une photo signée, unique, et ce prix, totalement délirant, totalement énorme, et ben c'est le prix de l'authenticité, de l'unicité du bien.
On a bien compris, au fond, n'importe quelle image, aussi banale soit-elle, peut être transformée en NFT et proposée à la vente, n'importe quel bien immatériel. Mais qui sont les acheteurs ?
Alors, les acheteurs, c'est des personnes qui sont un intérêt au Bitcoin, aux crypto-monnaies, qui connaissent bien le monde de la blockchain.
Et qui sont devenus très riches.
Il faut quand même savoir qu'un Bitcoin, c'est plus de 50 000 euros. Un Ethereum, 1 500 euros. Donc, c'est vrai qu'il y a toute une économie dans le monde de la crypto-monnaie. On ne peut pas acheter grand-chose aujourd'hui en Bitcoin. Hein. C'est quand même assez limité. Là, j'ai vu que récemment, on peut acheter une Tesla en Bitcoin quand même.
Mais Elon Musk aime beaucoup les Bitcoins, donc... Il a ouvert.
Ouais, il a d'ailleurs même mis en vente un morceau de musique Elon Musk en NFT. Mais comme on peut pas acheter grand chose pour le moment, du coup, c'est vrai que tout le monde de la culture, du sport, comme vous dites, aux jeux vidéo, à l'art, est assez attirant pour les propriétaires de Bitcoin. Dans le sport, on peut citer aussi, Frédéric, le site de NBA Top Shot, qui est un site de la NBA qui propose d'acheter des packs de vidéos des moments forts de la NBA.
Oui.
Là, vous pourrez me dire, mais pourquoi ça sert à rien, c'est gratuit. Ouais, mais ça s'échange pour des centaines de milliers de dollars quand même.
Eh oui, bien sûr. En fait, on observe le même phénomène à chaque fois qu'une nouvelle catégorie sociale s'enrichit et veut acheter de l'art. Là, ce sont ceux qui se sont enrichis grâce aux crypto-monnaies. Mais on a vu ça au siècle d'or hollandais, par exemple, au XVIIe siècle. Les Pays-Bas étaient le pays le plus riche d'Europe. Et pour la première fois, la bourgeoisie a eu les moyens d'acheter de la peinture, réservée jusque-là aux nobles et aux clergés. Mais elle ne voulait pas de peinture religieuse ni de scènes de bataille. On a donc imaginé pour elle des genres nouveaux, les natures mortes, les paysages, les marines, les peintures animalières ou les scènes de vie quotidienne. Et on a vu la même chose dans les années 80, quand les Golden Boys, on les appelait comme ça, ont gagné beaucoup d'argent à la bourse, mais la peinture leur semblait inaccessible et compliquée. Alors on leur a vendu les photos de Cindy Sherman ou d'Annie Leibovitz qu'ils voyaient dans les magazines. Et c'est comme ça qu'est né le marché de la photo. Aujourd'hui, ce sont les millionnaires du Bitcoin.
Alors, l'analogie est très intéressante. Je pense qu'on peut citer aussi, pour nous faire réfléchir, hein, à la dernière communication que j'ai vue hier de McDonald's, c'est très, très intéressant, il faut réfléchir à ça. McDonald's a offert des NFT dans certains de ses menus, totalement gratuitement. Alors, le contenu est très curieux, hein, c'est une pixelisation d'images d'un sundae, d'un burger ou d'un menu. Et donc, c'est donné, offert. Mais ça aussi, peut-être, si on fantasme ou pas, ou on, ou en cauchemar, la possibilité pour celui qui va le trouver de le revendre aux enchères et pourquoi pas devenir millionnaire. Donc soit on peut considérer que c'est une opération marketing, soit c'est une approche complètement opportuniste, soit c'est une nouvelle façon de redistribuer les valeurs. Mais c'est vrai que ça fait réfléchir. Mais ce que je crois en tout cas, c'est que le domaine de la blockchain a investi le monde de la création. Cette bulle qui est très spéculative, comme vous l'avez dit au début, va se calmer. Mais en tout cas, elle a pénétré ces domaines et je pense qu'elle n'est pas prête d'en partir.
Merci Julie Jacob de nous avoir éclairé sur les NFT. On se retrouve dans un instant avec un astronaute, c'est Michel Tognini et c'est pas n'importe quel astronaute, c'est lui qui a recruté Thomas Pesquet.
Europe 1, c'est arrivé demain. Frédéric Tadi.
Le 22 avril, Thomas Pesquet repartira pour la Station Spatiale Internationale. Michel Tognini, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes astronaute. Pesquet a été le 10e Français à partir dans l'espace. Vous avez été le 3e. C'était en 1992 et vous êtes reparti en 1999. Puis vous êtes devenu chef du Centre des astronautes européens à l'Agence spatiale européenne. Et c'est en tant que tel que vous avez recruté Thomas Pesquet. Vous racontez tout cela dans Un café dans l'espace qui vient de paraître chez Human Science. Quel souvenir gardez-vous de Pesquet à l'époque, la première fois que vous l'avez vu ?
Alors Pesquet, je l'ai vu d'abord lorsqu'il était un super-héros et que je suis venu en France pour faire le voyage post-tour avec mon équipage de ma mission sur la navette spatiale. Et c'est lui qui nous avait accueillis très gentiment. Ah, je savais qu'il était déjà motivé pour l'espace.
Oui. Pesquet a été choisi parmi plus de 8400 candidats en 2009. Ce que vous demandiez aux postulants, c'était pareil que ce que l'on vous demandait à vous en 1985, quand vous avez été sélectionné parmi là aussi plusieurs milliers de candidats ?
Alors c'était un peu les mêmes tests. Nous avions des tests plus physiques comme par exemple le tabouret tournant ou la centrifugeuse, alors que dans cette sélection que j'organisais, on a accentué la sélection surtout sur les profils double cursus, c'est-à-dire ingénieur universitaire plus activité opérationnelle, et surtout on a fait beaucoup de tests psychologiques tout le long de la sélection.
Tout simplement parce qu'ils sont amenés à rester plus longtemps dans l'espace que vous ne l'étiez à l'époque ?
Oui, c'est ça. Mes vols, quand j'ai fait ma sélection, les vols avaient duré 15 jours, 3 semaines, 1 mois maximum. Aujourd'hui, tous les vols vont faire à peu près 6 mois, voire 1 an. Donc, on doit avoir des profils psychologiques qui sont beaucoup plus adaptés aux vols de longue durée.
Vous parlez du tabouret tournant. Est-ce que vous pouvez raconter pour nos auditeurs qui n'ont pas lu votre livre ce que c'est que la redoutable épreuve du tabouret tournant ? Et est-ce qu'elle existe encore, d'ailleurs ?
Alors, ce tabouret existe en Russie et les Russes s'entraînent sur ce tabouret tournant. C'est un tabouret sur lequel vous tournez. Quand vous le regardez, il est insignifiant. C'est un petit tabouret comme un siège de dentiste. Hein. Vous tournez autour d'un axe vertical et avec une vitesse de 180 degrés par seconde environ. Et toutes les 5 secondes, il faut baisser le buste à l'horizontale, puis ensuite le relever à la verticale. Donc, vous avez des forces qui sont couplées dans votre oreille interne et qui rendent malades les gens très facilement. Donc pour moi, ça a été très dur au début, mais je me suis entraîné, et dans l'espace, j'étais tout à fait à l'aise.
C'est pour vérifier votre aptitude à supporter le mal de l'espace, en fait.
Exactement, pour éviter de voir des gens qui sont là-haut très malades. Ceci dit, c'était à l'époque, quand j'ai volé, il n'y avait pas de médicaments. Aujourd'hui, nous avons des médicaments dans l'espace qui vous stoppent ce mal de l'espace très, très efficacement.
C'est bon à savoir. En 2014, Pesquet est parti avec deux coéquipiers sur un vaisseau Soyouz pour rejoindre l'ISS. En 1992, vous étiez vous aussi parti sur Soyouz pour rejoindre la station Mir. Vous étiez trois également. Est-ce que les Soyouz ont beaucoup changé en 20 ans ?
Ça a beaucoup changé parce que moi, j'ai volé sur un Soyouz TM. Après, il y a eu le TMA pour anthropométrique pour mettre des gens un peu plus grands. Et aujourd'hui, par exemple, cette semaine, a décollé un Soyouz MS qui sont les Soyouz Ferrari, on va dire, qui font le décollage puis le rendez-vous en 3 heures, qui est un record mondial. De mon temps, il fallait faire un décollage et le rendez-vous 48 heures plus tard. Aujourd'hui, on se docke sur la station 3 heures plus tard. Donc c'est un progrès technologique assez faramineux.
Ça veut dire qu'ils vont plus vite encore ? Vous étiez déjà propulsé dans l'espace à 28 000 km/h. Oui, c'est ça. Et la station Mir tournait autour de la Terre à 28 000 km/h aussi.
Ces vitesses-là n'ont pas changé. Ce qui a changé, c'est le temps d'arriver à la station spatiale. De mon temps, il fallait 2 jours complets.
Pour l'arrimer, vous voulez dire. Pour arrimer le Soyouz. Voilà.
Oui.
Là, ça se fait beaucoup plus lentement, j'imagine.
Ça se fait beaucoup plus rapidement en temps. Disons qu'on arrive beaucoup plus rapidement parce que on a des ordinateurs qui sont plus performants. Donc, les calculs de changement de trajectoire, qui sont des impulsions que l'on met dans les moteurs, sont extrêmement précis. Et donc, on peut faire un rendez-vous de façon extrêmement rapide.
Michel Tognini, ça fait quoi d'être propulsé à 28 000 km/h ?
Alors, c'est une accélération constante. Vous accélérez à environ 4G, donc vous faites 4 fois votre poids pendant 9 minutes. Et la première partie de la fusée du premier étage vous fait monter à la verticale. Ensuite, la trajectoire va s'arrondir vers l'est pour entourer la Terre. Et le dernier étage vous propulse. Et je me souviens très très bien que dans ce dernier étage, j'avais l'impression que cette propulsion n'allait jamais s'arrêter et que la vitesse allait peut-être exploser. Enfin, pas la fusée exploser, mais on a une impression de vitesse assez forte. Et une fois qu'on regarde le sol, on a aussi l'impression d'aller très très vite parce que on est quand même à 30 fois la vitesse d'un avion de ligne.
La station spatiale internationale actuelle, elle est très différente de la station Mir des années 90 ?
Oui, parce que la station Mir était uniquement soviétique puis russe, puis elle a servi après pour les vols Shuttle Mir, alors que cette station internationale, elle est quand même internationale, comme son nom l'indique, donc elle est répartie entre Russes, Américains, Européens, Japonais, Canadiens. Elle est beaucoup plus moderne, nous avons des fonctionnements par ordinateur qui sont liés par télémesure avec le sol. Nous avons une couverture radio avec une radio extrêmement efficace avec le sol sur 90% de l'orbite, alors qu'au mois de montant, on avait la communication radio lorsqu'on passait au-dessus de la Russie. Donc parfois on avait 5 minutes, parfois on avait 0, donc c'était quand même beaucoup plus discret comme transmission radio. Et la station est quand même très très moderne, elle est quand même beaucoup plus moderne que la station Mir. Elle est 3 fois plus grande que la station Mir aussi.
Et elle est plus confortable. Pesquet dit qu'elle est plus proche du camping municipal que d'un hôtel 5 étoiles quand même.
Alors quand on va dans l'espace, c'est une sorte de camping, sauf que c'est un camping en 0G, donc en microgravité, plus avec des fenêtres qui vous montrent la Terre en entier entre 51 degrés nord et sud, donc on voit toute la Terre, chose qu'on pourrait jamais faire, même en survolant la Terre en avion pendant des années et des années. Donc c'est quand même un luxe assez incroyable de voir la Terre, de voir les astres, de voir les planètes comme on peut jamais les voir lorsqu'on est sur Terre.
Et ce qui a beaucoup progressé, c'est la photographie. Les photos que Thomas Pesquet a envoyées sont bien meilleures que celles que vous aviez envoyées à l'époque.
Oui, alors à l'époque, on avait des films chromatiques. Donc les films prenaient les radiations qui viennent des éruptions solaires. Donc les films se voilaient assez rapidement et on n'avait pas des appareils de bonne qualité. Aujourd'hui, on envoie dans la station tous les ans le dernier appareil photo sorti, donc le Nikon ou Canon, le meilleur. Et on a des téléobjectifs qui sont de très bonne qualité. Et aujourd'hui, ce que l'on fait, c'est que la technique qu'on a trouvée dans l'espace, c'est de ne pas changer les objectifs, c'est-à-dire qu'on laisse toujours les boîtiers avec leur objectif pour éviter que de la poussière ou de la micro-poussière se mette sur l'intérieur entre l'appareil et l'objectif pour avoir des qualités qui sont très très bonnes. Et on a vraiment progressé bien sûr dans la photo.
Michel Tognini, restez avec nous, j'ai encore beaucoup de questions à vous poser, on fait une pause, on se retrouve juste après.
9h-10h, c'est arrivé demain. Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Michel Tognini est en direct avec nous ce matin. Il a été le 3e Français à partir dans l'espace et il était le chef du Centre des astronautes européens quand Thomas Pesquet a été recruté. Alors, le 22 avril, Pesquet part pour rejoindre la Station spatiale internationale. Ils seront 7 à bord. Il va être le premier Français à la commander, d'ailleurs, cette station pendant les 3 derniers mois, car il va y passer 6 mois. Qu'est-ce qu'il va faire pendant tout ce temps et plus généralement, Michel Tognini, pourquoi va-t-on dans l'espace aujourd'hui ?
Alors, il sera pas le premier Français, il sera le premier Européen né en France. C'est la façon dont on appelle les astronautes. Et donc, c'est le 4e Européen qui sera commandant de bord de la station. Ça veut dire que dans nos accords de station spatiale, nous avons un accord qui est fait avec les Américains, les Européens, donc l'Agence spatiale européenne, qui inclut les Français, les Allemands et encore 22 autres pays, plus les Canadiens et les Japonais, pour partager toutes les tâches importantes, comme être dans l'espace, aller dans l'espace, mais également se faire des sorties extravéhiculaires, faire des opérations robotiques ou bien être commandant de bord de la station. Ce rôle, il est partagé entre tous les astronautes de différentes agences spatiales. C'est pour ça que Pesquet sera commandant de bord pendant la deuxième partie de son vol. Et pendant ce vol qu'il va faire pendant 6 mois, il va faire principalement des expériences scientifiques en microgravité sur les expériences qui sont dans le module Columbus et qui sont vraiment très intéressantes. Plus, il va faire également des sorties extravéhiculaires et des opérations robotiques et aussi récupérer, vous savez, ces opérations de déménagement, si on peut dire, avec tous les vaisseaux qui arrivent de la Terre régulièrement pour amener du matériel nouveau sur la station. Donc, il y a un transfert entre ces nouveaux vaisseaux et les anciens appareils que nous avons dans la station, que nous devons redescendre sur Terre ou que nous devons brûler dans l'atmosphère. Et donc, ça, c'est un travail qu'on en fait régulièrement. Donc, il y a un travail scientifique, un travail de manutention, un travail de réparation et en plus, le sport pour s'entretenir pendant ces vols de longue durée.
Pesquet rêve d'aller sur la Lune. Il a une chance, à votre avis ?
Alors, les missions lunaires vont commencer bientôt, hein, d'ici 5 à 10 ans. Donc, vu qu'il est jeune, il a encore le temps d'aller sur la Lune, bien sûr, jusqu'à 60 ans, puisque en critère d'âge, hein, quand on regarde dans les records, l'homme le plus âgé qui a été dans l'espace, c'était John Glenn à l'âge de 78 ans. Donc, Pesquet a quand même une marge pour y aller, pour aller sur la Lune. Et je pense que c'est faisable s'il a la motivation, la santé et si les programmes s'imbriquent bien pour ça. Et je voudrais signaler à ce passage que grâce à cette coopération dont j'ai parlé tout à l'heure entre la NASA et l'Agence spatiale européenne, nous avons une partie de la construction du véhicule qui va aller sur la Lune, qu'on appelle Orion. Et grâce à cette coopération technologique, nous avons déjà 3 astronautes européens qui seront programmés pour aller sur la Lune. Donc c'est quand même intéressant et Pesquet pourrait être l'un de ces 3.
Et aller sur Mars, vous pensez qu'on pourra un jour, c'est beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus compliqué d'envoyer des humains sur Mars que sur la Lune. On a une chance ?
Ah oui, bien sûr, nous irons sur Mars, il est certain que nous irons sur Mars. Ça va prendre quelques années pour organiser le voyage. Je pense que, à mon sens, pour faire ce voyage-là, il faut le faire de façon globale avec toutes les nations participantes, c'est-à-dire ces participants de la Station spatiale internationale d'aujourd'hui, plus la Chine, plus l'Inde, c'est-à-dire que toute la Terre entière doit participer à ce programme spatial vers Mars pour envoyer non pas un drapeau national, mais un drapeau Terre sur Mars. Ensuite, connaître bien ce programme au niveau technologique. On a aujourd'hui des problèmes sur les radiations, mais qu'on va résoudre. Et c'est pour ça que nous avons fait cette station spatiale internationale pour préparer les voyages sur la Lune. Et c'est pour ça que nous allons autour de la Lune pour mieux comprendre ces radiations et surtout les éruptions solaires qui nous donnent des radiations assez fortes pour qu'on puisse supporter ces radiations lorsque nous irons sur le voyage sur Mars, qui va durer un voyage qui va durer à peu près 2 ans.
C'est sur le Crew Dragon, un véhicule spatial développé par la société SpaceX d'Elon Musk que Thomas Pesquet va rallier l'Association spatiale internationale. Elon Musk a annoncé une première mission habitée sur Mars en 2026, vous y croyez ?
Alors 2026, ça me paraît un peu optimiste, mais c'est bien de donner quand même de donner des dates, même si elles sont un petit peu optimistes, pour qu'on puisse glisser un petit peu et décoller un peu plus tard. Moi, je pense, j'aime pas donner des dates, hein, parce que quand j'étais sélectionné comme astronaute en 85, on devait décoller sur Mars 30 ans plus tard, et on a donc loupé ce créneau-là. Donc, je sais qu'on ira sur Mars, mais je vais pas vous donner une date. Et Elon Musk, il va faire son maximum pour y aller, mais il doit quand même se heurter au fait que si on envoie des êtres humains sur Mars, il faut qu'ils arrivent vivants et qu'ils soient en bonne santé. Et pour ça, on doit un peu régler les problèmes de radiation et surtout des éruptions solaires.
Et il faut qu'ils reviennent aussi.
Il faut qu'ils reviennent, bien sûr.
Oui, on n'a jamais rien fait décoller de Mars, au fond, puisque tout ce qu'on y envoie reste là-haut.
Oui, tout ce qu'on a. Oui, on a fait décoller de la Lune. Donc, si on peut redécoller de la Lune, on peut redécoller de Mars. C'est un peu plus complexe, bien sûr, parce que Mars est beaucoup plus gros, donc l'attraction sera plus grande. Mais on peut y arriver. Tous ces problèmes technologiques seront résolus, bien sûr.
En décembre 2019, Donald Trump a créé l'United States Space Force, l'USSF, pour la conduite d'opérations militaires dans l'espace. Qu'est-ce que ça change ? Est-ce que l'espace aujourd'hui est moins safe qu'autrefois ?
Non, l'espace n'est pas moins safe qu'autrefois. Simplement, il y a de plus en plus de satellites qui nous aident pour la communication, qui aident également pour la communication militaire, pour l'observation de certains sites au niveau militaire. Et donc, ces satellites ont une dimension également d'intelligence nationale et ils ont une valeur qui est à protéger, c'est un patrimoine national à protéger, et pour cela on doit mettre en place une infrastructure qui les protège. Les Américains l'ont fait, nous le faisons en France également avec le centre militaire qui est à Toulouse. Donc chaque pays a son développement spatial militaire. Avant on parlait d'armée de l'air, aujourd'hui on parle d'armée de l'air et de l'espace.
Et l'arrivée de sociétés privées à but commercial, comme SpaceX, justement, ça change quelque chose ?
Alors, sur le plan militaire, non, mais sur le plan accès à l'espace, oui, ça change parce que Elon Musk fait des accès à l'espace beaucoup moins chers que ce que faisait la NASA, avec des technologies plus modernes, avec réutilisation de choses qu'on peut acheter, qui sont déjà prêtes dans le commerce. Donc, il y a une rentabilité qui est assez accrue. Et puis, il faut le dire quand même, Elon Musk est l'une des seules personnes que je connaisse qui a ce double profil d'être ingénieur et d'être financier. Donc, il est vraiment au cœur de la rentabilité lorsqu'il fabrique un objet qui va dans l'espace.
Merci Michel Tognini d'avoir été en direct avec nous ce matin. Un café dans l'espace, c'est le livre très intéressant que vous venez de publier chez Humaine Science. On se retrouve dans un instant, on va parler de baleines et de la victoire des baleines sur les baleiniers.
9h, 10h, c'est arrivé demain. Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour Alain Senpin.
Bonjour Frédéric Taddeï.
Vous êtes l'auteur d'un livre au titre sensationnel, L'incroyable victoire des cachalots dans leur guerre contre les baleiniers au XIXe siècle. Il est paru l'année dernière aux éditions de Londres. Et si je vous ai invité ce matin, c'est qu'un certain nombre de découvertes scientifiques récentes vous donnent raison. Mais on va d'abord rappeler la thèse de votre livre. Il faut se souvenir en effet qu'au XIXe siècle, la chasse à la baleine, c'est très important pour l'économie américaine notamment, parce que l'huile de baleine servait à l'éclairage public. Or, au bout d'un certain temps, les baleines ont commencé à couler des baleiniers. Elles sont devenues plus grandes, plus agressives, plus dangereuses. C'est ce que racontait un peu, sans le savoir, Herman Melville dans son roman Moby Dick en 1851.
Oui, c'est ça. Herman Melville le raconte en 1851 dans Moby Dick. Et comme je dirais, comme François Sarano, ayant embarqué, Melville savait de quoi il parlait, en fait.
Sarano, c'est un océanographe, hein, il faut le savoir.
C'est un océanographe, oui. La thèse de mon livre repose sur le fait que j'ai constaté, à partir de recherches diverses, que l'espèce cachalot, et particulièrement dans le Pacifique, n'avait pas du tout été menacée par les baleiniers malgré leur activité, et que ça avait été l'inverse qui s'était produit, c'est-à-dire que l'industrie cachalotière entre 1820 et 1860 s'était effondrée progressivement avec des attaques effectivement spectaculaires, notamment à partir des années 30, ça s'était multiplié sur les grands navires notamment.
Alors vous dites les cachalots, moi je dis les baleines, mais on va dire que c'est à peu près la même chose, d'ailleurs en anglais c'est le même mot, hein, c'est whale. Vous dites au fond dans votre livre que les baleines ont appris à se défendre et ont mené une guerre contre les baleiniers avec beaucoup d'intelligence et de manière collective.
Oui, il faut savoir que les cachalots ont une société strictement matriarcale et quelque part, on peut dire que cette société matriarcale a réalisé une forme de fabrique du héros très différente de celle de la société patriarcale qui a fait la fabrique du héros dans l'Antiquité pour l'humanité. En effet, le rôle et le statut du mâle, du grand mâle chez le cachalot est assez différent. On peut dire qu'il est à la fois co-stratège, il est protecteur, mais son statut n'est pas hiérarchiquement supérieur au matriarche. Le système social lui-même a pour priorité la défense pour aller vite des femmes et des enfants. Et là, les matriarches et les patriarches co-dirigent l'affaire. Ce qui sous-entend que tout ce côté absolument spectaculaire, offensif, agressif et quelque chose comme une diversion et quelque chose comme une agit-prop de la propagande, hein, car le but réel c'est de mettre à l'abri les populations, je dirais civiles, hein, les non-combattants, les femmes, les enfants, et c'est ce qui se produit. Et ce qui est différent par rapport à l'an dernier, c'est que François Sarano d'une part et Al Whitehead d'autre part ont mis en très plein, si vous voulez, ce qui était dans ma thèse. C'est-à-dire que François Sarano, qui était très hésitant au départ sur le rôle des mâles dans la société matriarcale, s'est rendu compte très récemment, hein, il en a parlé le 12 mars et encore le 8 avril, que les mâles ont une fonction fondamentale de récit. Ce sont des aèdes, en fait. Hein. Ce sont des migrants qui partent de chez eux, de leur groupe de naissance à l'âge de 10 ans, n'en reviennent jamais, mais vont dans d'autres clans où ils ont des enfants, des petits-enfants, et ils partent dans les zones polaires, et quand ils en reviennent, ils sont chargés de récits, et le groupe qui les accueille les écoute.
Et au fond, c'est comme ça qu'ils apprennent aux autres à se défendre, y compris à des oui. baleines qui n'avaient jamais vu de baleiniers et qui vont les
Absolument.
Attaquer avant même d'être attaqués. Au fond, les scientifiques viennent de montrer que le taux de réussite des baleiniers pour harponner les baleines, on est toujours au 19e siècle, hein, a effectivement baissé de plus de la moitié au bout de quelques années. Ça veut bien dire que les baleines ont appris.
Oui, et ce fait d'apprendre a été énormément simplifié par le fait que la communication chez les cachalots est très fluide, que cette communication se relaie, et les choses peuvent aller très loin, si vous voulez, parce que on sait que le discours est un peu comme une caresse. Enfin, quand on dit tes paroles me touchent, c'est beaucoup plus concret pour le cachalot que oui. pour l'humain. Et donc, ça va même jusqu'à une forme d'éducation et d'échange avec les fœtus, hein, intra-utérin. L'éducation commence à ce moment-là. Donc, l'orientation psychologique et la détermination psychologique va dans ce sens-là. Nous avons affaire à des ambassadeurs, à des apprivoiseurs qui prennent l'initiative. Donc, il n'y a aucun doute qu'avec les baleiniers, les ambassadeurs ont été molestés. Et suivant les contextes, eh bien, ces animaux s'adaptent en réagissant positivement ou négativement par rapport au comportement qu'on a à leur endroit. Donc, tout s'est joué dans le Pacifique, en fait, au 19e siècle. Les choses n'étaient pas nettes dans l'Atlantique au 18e. Et dans le Pacifique au 19e siècle, c'est dès les premières années que les prises ont pratiquement baissé de 60%.
Les baleines, au fond, forment une nation, c'est ce que vous dites dans votre livre, une puissance.
Les cachalots, hein. En tout cas, oui.
Oui, oui, moi, je continue de dire les baleines, pardonnez-moi. Elles se retrouvent, elles communiquent, comme des réunions d'état-major, au fond. Elles disposent de sonars, ce que n'ont pas à cette époque les baleiniers. Et elles vont finir par les vaincre. De plus en plus de bateaux vont couler, disparaître. Au fond, vous dites que les baleiniers chassent au harpon, alors que les baleines chassent les baleiniers en les attirant dans des zones qu'elles ont oui. préparées au départ.
Oui, oui. Je dis les baleiniers chassent au harpon et les cachalots chassent au filet. Mais c'est un filet invisible et d'ampleur planétaire, avec des relais magnétiques. Oui, absolument.
Et au fond, si les baleines ont remporté au 19e siècle ce que vous appelez la guerre du Pacifique...
Première guerre du Pacifique.
Voilà, c'est qu'elles étaient plus intelligentes que les baleiniers. C'est seulement, au fond, une amélioration des navires et des armes utilisées par les hommes qui va leur permettre de reprendre le dessus, mais pas avant la deuxième moitié du 20e siècle, en fait.
C'est ça, pas avant la deuxième moitié du 20e siècle. Je dirais, pour relativiser les choses, quand même, que les cachalots étaient plus intelligents, c'est certain. Ils avaient aussi un énorme avantage de terrain. Ils connaissaient beaucoup mieux le terrain, les notions de profondeur, les notions de fosse, tout un tas de variations subtiles que ne pouvaient pas évaluer les baleiniers. Aurait-il été prodigieusement intelligent, quoi.
L'incroyable victoire des cachalots dans leur guerre contre les baleines au 19e siècle, c'est le titre de votre livre, Alain Senpin, un livre d'autant plus fascinant qu'il est corroboré par de nouvelles découvertes scientifiques. Il est paru l'année dernière aux éditions de Londres. Merci, Alain Senpin.
Europe 1.
C'est arrivé demain, se termine. On se retrouve samedi prochain après le flash de 10h. Vous allez retrouver le grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos présenté par Mickaël Darmon. Quel est votre invité, Mickaël ?
Agnès Pannier-Runacher, ministre de l'Industrie et de la Vaccination, pourrait-on dire. On confine et on vaccine. Est-ce que le gouvernement a enfin trouvé la bonne formule ?
Bonne émission, Mickaël.